France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'IA nous fait ? L'expression « intelligence artificielle » a été inventée en 1956 par John McCarthy lors d'un séminaire sur la cybernétique aux États-Unis. Il voulait ainsi désigner, je le cite, « un champ de recherche visant à décrire le fonctionnement des différents aspects de l'apprentissage de manière suffisamment précise pour qu'il puisse être simulé par des machines ». Fin de citation. 70 ans plus tard, l'IA est pleinement opératoire et ses performances progressent si rapidement que nombreux sont ceux qui se demandent ce qu'elle va finir par pouvoir faire. Posons-nous plus modestement la question de savoir ce que, déjà, elle nous fait. Ce qu'elle fait à nos façons d'apprendre, de travailler, de communiquer, de penser. En somme, dans un monde désormais gorgé d'écrans, rythmé par la musique des clics, en partie livré aux calculs algorithmiques, que devient ce que Paul Valéry appelait la vie de l'esprit ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. D'abord, Anna Lambert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante chercheuse en philosophie à l'université Paris 8 et vous venez de publier aux éditions Alia un livre intitulé « De la bêtise artificielle ». Et puis Eric Sadin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, auteur d'un livre qui vient lui aussi de paraître aux éditions de l'Échappée, qui s'intitule « Le désert de nous-mêmes, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle ». Tous les deux, vous avez déjà écrit sur l'IA. Qu'est-ce qui vous a poussé à remettre le couvert, si j'ose dire ? Anna Lambert.
Alors, pour ma part, mon premier ouvrage qui s'intitulait « Schizophrénie numérique » qui avait été publié en 2023 sur ce sujet, parce que par ailleurs j'ai écrit d'autres ouvrages dans le champ de la philosophie contemporaine de la technologie, mais ce premier ouvrage, en fait, il se focalisait sur les enjeux des réseaux sociaux, commerciaux, des algorithmes de recommandation et de l'économie de l'attention. Or, quand j'ai compris que les intelligences artificielles génératives du type de ChatGPT, de Grok, de DeepSeek, etc., allaient se généraliser et devenir en fait des dispositifs grand public qui allaient reconfigurer nos espaces publics, mais aussi nos pratiques linguistiques et symboliques, il m'a semblé absolument nécessaire de poser de nouvelles questions au sujet de ces nouvelles technologies.
Et vous, Eric Sadin, vous avez publié en 2023 aux éditions Grasset un livre intitulé « La vie spectrale » dans lequel vous mettiez en garde contre la pixelisation croissante de nos existences et dénonciez le promptisme généralisé qui concasse, disiez-vous, le rythme de nos existences.
Oui, et puis auparavant, en 2018, j'avais fait paraître l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, avec comme sous-titre « Anatomie d'un anti-humanisme radical ». Parce que il me semble qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion relativement à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a l'intelligence artificielle telle qu'elle est à l'œuvre depuis une vingtaine d'années, qui est une puissance d'interprétation et d'envoi de signaux, c'est-à-dire d'encadrement de l'existence à diverses fins, recommandation de produits, recommandation d'action à entreprendre. Et cette dimension que j'appelle cognitive et organisationnelle, je l'avais analysée donc en 2018. Et il se trouve que je suis revenu sur l'événement de 30 novembre 2022, c'est-à-dire le lancement de ChatGPT, qui instaure un nouvel embranchement dans l'histoire de l'intelligence artificielle, que j'appelle le tournant intellectuel et créatif, qui ne vient pas se substituer à la dimension cognitive et organisationnelle, et que sur lequel j'ai commencé à travailler dès l'apparition de ChatGPT et plus largement des IA génératives, mais avec la difficulté que j'ai rencontrée en cours de route, c'est qu'un an auparavant, à la sortie du Covid, Mark Zuckerberg avait annoncé le lancement du métavers. Je crois que je me suis un peu pris au jeu, comme tout le monde, c'est-à-dire que je me suis dit, là, s'annonçait la pixelisation totalement intégrale de l'existence, et un an plus tard, alors que je devais paraître en septembre 2023, est apparu ce choc, que moi j'ai vécu comme un choc, de l'avènement des IA génératives. Donc ça a été un livre un peu hybride, hein, que c'est pour la première fois que je modifiais assez considérablement les choses en cours de route, ce qui n'était pas confortable. Et donc, quand il a été publié, je me sentais un peu frustré de ne pas avoir tout dit. Donc, je me suis dit, après un moment de réflexion, il faut que j'y revienne, que je fasse une analyse détaillée, précise de tous les enjeux que Shari, après avoir analysé l'IA dans sa dimension cognitive et organisationnelle, dans ce qu'elle procède de prise en charge de nos facultés intellectuelles et créatives.
Alors, je vous propose qu'on organise l'émission de la façon suivante. Pendant un gros quart d'heure, je vais discuter avec Anna Lombert de son livre, puis je discuterai avec Eric Sadin de son livre, et ensuite vous discuterez tous les deux. Parce que vous ayant lu, je vois qu'il y a des points de convergence dans vos analyses, et puis il y a des petites différences dont vous préciserez l'ampleur. Alors je commence donc par vous, Anna Lombert. Vous avez remarqué comme moi qu'on entend à propos de l'IA des discours alarmistes, voire apocalyptiques. On entend aussi des discours qui la présentent comme une sorte de planche de salut, au sens où elle va nous permettre de résoudre des problèmes qu'on ne pourrait pas résoudre sans elle. Vous, vous situez où dans ce spectre ?
Alors, moi, j'ai hérité, disons, d'une conception pharmacologique de la technique qui me sert un peu d'antidote par rapport à ces discours technosolutionnistes. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la conception de la technologie comme un pharmacone, elle implique de considérer qu'on ne va jamais régler des problèmes psychiques, sociaux, politiques, économiques, simplement avec une technologie. Et que la technologie, au moment où elle prétend nous augmenter, nous amplifier, nous accélérer, etc., en fait, elle vient aussi toujours nous diminuer, nous amoindrir, et elle présente donc certains risques qu'il s'agit d'analyser. Donc ça, c'est le premier point, je crois, pour éviter de tomber dans des discours transhumanistes ou technosolutionnistes qui ne voient que un aspect, en réalité, de ces industries numériques contemporaines. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est sur la manière anthropomorphique dont nous nous rapportons bien souvent à ces technologies. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'agents conversationnels. Donc on attribue l'intelligence, l'apprentissage, l'agentivité, c'est-à-dire des capacités psychiques, cognitives, mentales, à des dispositifs technologiques. Or, je pense que cela est très problématique, parce que ça nous masque, d'une part, les fonctionnements scientifiques, technologiques, qui gouvernent, disons, les fonctionnalités de ces dispositifs. Ça nous masque aussi tous les enjeux écologiques, environnementaux, les infrastructures industrielles qui sont nécessaires, les centres de données, les câbles, les satellites qui sont nécessaires pour faire fonctionner ces dispositifs.
L'énergie.
Toute l'énergie, voilà, donc l'électricité, mais aussi l'eau, puisque les centres de données doivent être refroidis, etc. Donc ça implique aussi certaines formes de conflits politiques, parce que ces industries rentrent en conflit avec les intérêts parfois des habitants locaux qui se voient, disons, privés de certaines ressources parce qu'il faut construire des centres de données. Et ça nous masque aussi deux autres choses qui me semblent importantes. Premièrement, les logiques de pouvoir, les logiques idéologiques qui sont derrière ces machines, parce que quand on parle d'intelligence, d'apprentissage, d'agentivité, on a l'impression que la machine est une sorte de double de l'humain. Mais en fait, il y a des humains derrière la machine. Il y a des humains qui ont été exploités pour trier, disons, les données, et puis à d'autres humains qui ont entraîné, qui ont affiné les algorithmes selon certains critères qui sont des critères qui correspondent à leur vision du monde. Donc en fait, ces machines, elles ne sont pas du tout neutres. Elles implémentent, si je puis dire, certaines visions du monde, certaines manières de penser. Et quand il s'agit de technologies linguistiques ou symboliques, eh bien c'est potentiellement très dangereux, parce que ça va conditionner ensuite les manières de penser des individus qui vont les utiliser. Voilà. Et puis la dernière chose qui me semble importante, c'est que quand on attribue ces capacités mentale, psychique, cognitive à ces dispositifs, en fait, on s'empêche de se demander ce que ces dispositifs font à nos capacités mentales, psychiques ou cognitives, et aussi à nos relations sociales, bien sûr, parce qu'on est face à des technologies qui sont à la fois des prothèses cognitives et des technologies relationnelles, hein. Notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, les chatbots, les compagnons virtuels, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'interroger ces enjeux psychiques, sociaux et politiques de ces nouveaux dispositifs technologiques qui viennent reconfigurer complètement nos milieux symboliques, en réalité.
Mais Anna Lombert, est-ce qu'on a déjà les moyens de mesurer les conséquences psychiques et sociales, comme vous dites, de l'IA? Autrement dit, est-ce qu'on est capable de dire ce que serait le monde si l'IA n'avait pas existé, pour pouvoir faire cette comparaison?
Alors, je ne sais pas si on peut faire ce type de comparaison. En revanche, je pense qu'on a les moyens d'anticiper, de réfléchir un petit peu aux enjeux à venir. Alors, vous savez que, par exemple, avec les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux commerciaux, on a beaucoup attendu avant de comprendre qu'il y avait en fait des dangers très importants pour à la fois la santé psychique des populations et aussi pour tout simplement, notamment des jeunes générations, et puis pour nos relations sociales et pour nos régimes démocratiques aussi. Donc, je pense que cette fois-ci, il faut être un peu plus visionnaire, si je puis dire, et essayer d'anticiper un peu mieux. Par ailleurs, il y a déjà des études qui sont sorties, notamment une étude du MIT qui a été pré-publiée l'année en juin dernier, me semble-t-il, ou en mai dernier, enfin je ne sais plus très bien quand, mais en tout cas au printemps-été 2025, qui regardait les effets de l'usage de ChatGPT sur les cerveaux des usagers, et qui montrait qu'il y avait ce qu'ils appellent dans cette étude une réduction de l'amplitude cognitive, c'est-à-dire que certaines zones cérébrales ne sont pas mobilisées, notamment les zones qui sont associées à la production de sens et à la compréhension du sens. Et donc, il y a un abandon, en fait, de certaines capacités psychiques et cognitives quand on utilise ces dispositifs. Et qu'ensuite, donc, cette étude parle de dette cognitive parce que, ensuite, les individus deviennent dépendants, évidemment, de ces dispositifs. C'est-à-dire que quand on leur enlève la prothèse, ils ont beaucoup plus de mal à remobiliser, en fait, ces capacités de rédaction, d'expression qu'ils ont déléguées au dispositif. Et donc, ça, c'est le genre de...
C'est-à-dire, à force de déléguer, on perd en compétences.
Exactement.
Et vous dites d'ailleurs, un étudiant qui utilise ChatGPT pour écrire ses devoirs est l'équivalent d'un footballeur qui demanderait à un robot d'aller s'entraîner à sa place.
Voilà, exactement.
Est-ce que c'est aussi net que ça? Est-ce qu'on ne peut pas apprendre des machines aussi?
Alors, on peut apprendre des machines si on s'intéresse à leur fonctionnement et qu'on essaye de comprendre comment elles fonctionnent. Ça, je pense que c'est très important parce qu'il y a un gros problème de culture technique aussi, de culture numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où, bien souvent, beaucoup de personnes, et j'en fais partie d'ailleurs, manquent cruellement de culture technique, de compréhension de ce que c'est qu'un algorithme, de compréhension des différents courants.
C'est quasiment impossible de connaître comment ça marche exactement.
Alors, exactement non, mais quand même, on peut comprendre les grands principes. Par exemple, on peut comprendre que c'est des calculs statistiques et probabilité sur des quantités massives de données. Donc on peut comprendre que du coup ça a des effets de moyennisation, de standardisation, d'uniformisation, etc. Plutôt que de projeter des espèces de capacités créatives dans les machines, qui est un rapport complètement fantasmatique à ces dispositifs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut enseigner dès le plus jeune âge. Il n'y a pas besoin d'avoir un écran pour comprendre ce que c'est qu'un algorithme. Donc il y a vraiment une question de culture technique et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce plan-là. En revanche, quand nous nous contentons d'utiliser ces dispositifs, c'est-à-dire de les consommer en fait, quand nous avons un rapport de consommateurs où nous passons une commande et puis nous attendons un résultat sans savoir comment ce résultat a été produit, et bien ça, je pense que c'est très dangereux parce que du coup, nous ne pouvons pas exercer notre esprit critique à l'égard de ce résultat parce que nous ne connaissons pas le type de calcul qui a été fait, nous ne connaissons pas les jeux de données et nous ne connaissons pas les principes d'entraînement de ces machines. Donc vous savez que par exemple, le règlement sur les services numériques exige la transparence des algorithmes de recommandation dans le cas des réseaux sociaux commerciaux. On pourrait là aussi exiger au minimum une transparence sur la manière dont fonctionnent les algorithmes dans toutes les différents types d'IA générative que nous utilisons aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a un risque encore plus grand, me semble-t-il, parce que nous allons déléguer des capacités qui sont des capacités tout à fait fondamentales, des capacités d'expression notamment, qui impliquent la mobilisation de notre mémoire, de notre imagination, qui sont des capacités intrinsèquement singulières. Et si nous les déléguons à ce type de dispositif, eh bien, nous déléguons en fait ces capacités singulières à des dispositifs probabilistes qui, encore une fois, renforcent des moyennes, uniformisent les contenus symboliques.
Est-ce qu'on a déjà observé une modification dans notre façon de lire, d'écrire après l'apparition de ChatGPT?
Alors,
est-ce qu'on parle de plus en plus comme les machines, pour dire les choses autrement?
Je cite une étude dans mon livre qui montre que certains scientifiques qui avaient utilisé ChatGPT pour rédiger leurs papiers scientifiques, leurs articles scientifiques, lors de leurs conférences, emploient beaucoup plus certaines catégories qui sont très valorisées par ChatGPT. Et de toute façon, ça semble assez logique. On n'a pas forcément besoin d'études pour le vérifier. Ouais. Si, par exemple, si vous lisez beaucoup de livres de Proust, vous allez adopter peut-être le langage de Proust, vous allez penser dans le style de Proust. Bon, si vous utilisez ChatGPT pour tout... À chaque fois que vous avez une production écrite à réaliser, forcément, vous allez être d'une certaine manière conditionné par les catégories qui sont celles de la machine. Or, les catégories de langage sont aussi nos catégories de pensée. Donc, si nous parlons ou si nous écrivons dans les catégories de ChatGPT, qui est, je le rappelle, un produit, un service numérique qui a été entraîné par une entreprise privée. Pour l'instant, c'est gratuit, mais ça ne le sera peut-être pas toujours. Et par ailleurs, cette entreprise, elle est aussi liée à d'autres entreprises et au gouvernement américain, etc. Et donc, elle est aussi porteuse d'un certain nombre d'idéologies. Et chaque, chaque dispositif d'IA génératif implémente aussi une certaine manière de voir le monde. Donc il y a un risque de conditionnement de nos esprits, une prise de pouvoir sur le langage qui est aussi une prise de pouvoir sur nos esprits. Donc d'où la nécessité, si vous voulez, d'appréhender ces dispositifs avec un peu de recul critique et de les réinscrire aussi dans un contexte économique et politique.
Quelle différence faites-vous, Anna Lombert, entre l'IA symbolique et l'IA connexionniste ?
Alors,
vous en parlez dans votre livre, mais je pense que c'est une distinction importante à signaler.
Oui, c'est une distinction importante qu'on peut signaler. En réalité, l'IA symbolique, c'est l'IA qui fonctionne sur la base de programmes, pour le dire un peu grossièrement. Donc, disons des suites d'instructions qui vont être programmées à l'avance et la machine va exécuter ces suites d'instructions. Alors que l'IA connexionniste, elle fonctionne plutôt sur la base de calculs statistiques ou probabilistes sur des quantités massives de données. Et la machine, si vous voulez, le système est censé apprendre de lui-même, comme on dit. En fait, il apprend pas de lui-même, mais en fonction de l'objectif qu'on lui a donné, eh bien, les paramètres vont se modifier automatiquement, si je puis dire. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même type de système. En revanche, ce que je remarque, c'est que dans le cas de l'IA symbolique, comme dans le cas de l'IA connexionniste, il y a des analogies, si vous voulez, très fortes et très présentes entre, d'un côté, l'esprit humain et le programme, et de l'autre, si vous voulez, le cerveau humain et l'ordinateur. Et ça, je pense que ce sont des analogies un peu dangereuses parce qu'en fait, nous, nos esprits et nos cerveaux ne fonctionnent pas du tout comme, disons, les modèles mathématiques et algorithmiques qui sont à l'œuvre dans l'IA symbolique ou dans l'IA connexionniste. Et donc, ce qu'il faut se demander, il faut arrêter en fait d'être dans cette espèce de comparaison et de compétition entre l'humain et la machine, mais il faut vraiment se demander comment ces machines affectent nos capacités psychiques, mentales, symboliques et nos relations collectives.
Mais est-ce qu'on a raison de rappeler que dans l'expression IA, intelligence artificielle, le mot intelligent, c'est le mot anglais, qui n'est pas le même que le mot français. En anglais, l'intelligence, c'est la gestion des données, le traitement de l'information.
Oui, le renseignement.
En français, c'est plutôt aussi la capacité à montrer qu'on est intelligent, à argumenter, à distinguer le vrai du faux, à faire des expériences de pensée, ce que l'IA, pour l'instant, ne fait pas.
Oui, et je pense qu'elle ne fera jamais, parce que si vous voulez, ça c'est, enfin pour moi, c'est pas vraiment une question. Effectivement, oui, on peut rappeler que en réalité, c'est du traitement automatique de données. Voilà, avec une certaine complexité dans le cas des IA génératives auxquelles on a affaire aujourd'hui. Mais oui, bien sûr.
Alors, vous parlez de ces cas, paraît-il, assez nombreux, où des jeunes gens, des jeunes filles tombent amoureux ou amoureuses d'un chatbot. Comment ça se comprend, ça, qu'on puisse tomber amoureux d'une machine ?
Alors, si vous voulez, l'une des raisons pour laquelle cela est possible, c'est que ces machines utilisent la première personne du singulier, le « je », et donc jouent un petit peu sur une tendance psychique que nous avons à anthropomorphiser justement les...
C'est l'effet Elisa ou c'est plus que ça ?
Alors, c'est l'effet Elisa, oui, mais ça va même un peu plus loin, si vous voulez, parce que en fait, l'effet Elisa, c'est cette tendance que nous avons à anthropomorphiser les machines. Et ça avait été repéré déjà dans les années 60 par Joseph Weizenbaum, qui était l'informaticien qui avait créé le premier chatbot et qui avait dit « Attention, c'est très dangereux, parce que même une personne qui n'est pas vulnérable psychiquement, en fait, anthropomorphise très vite un chatbot qui pourtant était très simple, qui fonctionnait Elisa, le chatbot Elisa, il fonctionnait sur un programme assez basique, hein, c'était pas aussi adapté, disons, que les IA génératives auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. » Et Joseph Weizenbaum avait dit « Attention, c'est très dangereux, ça suscite des pensées délirantes, donc il faut surtout pas les diffuser à grande échelle. » Or, aujourd'hui, on a toutes sortes d'industries qui tirent profit en fait, qui se présentent comme des remèdes à la solitude, mais qui en fait viennent exploiter la solitude comme une forme de nouveau marché, d'une certaine manière, en fournissant des espèces d'amis virtuels, de compagnes ou de compagnons virtuels, à des personnes qui, effectivement, sont leurrées, en fait, sont un petit peu manipulées, si je puis dire, parce que elles vont prendre, si vous voulez, en fait, on a affaire à une simulation d'altérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'altérité, mais l'altérité est simulée avec toutes sortes de techniques qui s'apparentent d'ailleurs à des dark patterns, à des interfaces trompeuses, d'une certaine manière. Donc, la machine va utiliser la première personne du singulier, elle va dire qu'elle est à votre écoute, qu'elle ressent telle et telle émotion, etc.
Et donc, empathique.
Voilà, qu'elle est empathique. Et vous, en fait, le risque, c'est, si vous voulez, de croire que vous vous rapportez à quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, ce à quoi vous vous rapportez, c'est un reflet algorithmique de vous-même. C'est-à-dire que la machine, elle ne vous renvoie qu'un reflet adapté de vous-même pour, voilà, vous renforcer dans vos opinions, etc. Donc, elle vous coupe de votre relation aux autres. Et par ailleurs, ce reflet de vous-même, vous voyez, il y a une histoire qui nous raconte... On connaît, disons, le mythe de Narcisse qui nous raconte l'histoire de quelqu'un qui prend son reflet pour quelqu'un d'autre et qui en tombe amoureux. Et ben, c'est exactement ce qui se passe avec les chatbots aujourd'hui. Nous prenons ce qui est un reflet algorithmique de nous-mêmes pour quelqu'un d'autre, au point parfois d'en tomber amoureux, ce qui crée toutes sortes de problèmes psychiques, évidemment. Et donc, c'est potentiellement très dangereux. Donc, comme le règlement sur les services numériques interdit les dark patterns dans le cas des réseaux sociaux commerciaux, par exemple, donc toutes ces interfaces trompeuses qui ont vocation, si vous voulez, à influencer nos comportements à notre insu, eh bien, on pourrait réfléchir collectivement et se demander si on ne devrait pas aussi interdire l'usage de la première personne du singulier par ces dispositifs, par exemple, pour éviter justement ces effets de manipulation psychologique.
Vous parlez aussi, c'est un mot que je ne connaissais pas, de la technique de l'astroturfing. Qu'est-ce donc ?
Alors, ça, c'est une technique qui permet, si vous voulez, d'utiliser des faux comptes, des bots, pour cliquer de manière massive ou commenter de manière massive des vidéos qui vont ensuite être amplifiées, là encore de manière massive, par les algorithmes de recommandation. Donc, avec l'IA générative, ce risque se voit démultiplié parce que l'IA générative permet d'alimenter, on sait hein, tous et toutes, que l'IA générative permet de générer des fausses informations. Bon, ça, c'est assez évident. On dit moins souvent que l'IA générative permet aussi d'alimenter de manière massive et rapide toutes sortes de faux comptes qui vont ensuite aller cliquer ou commenter des vidéos qui vont être amplifiées par les algorithmes de recommandation. Et donc là, on a un risque de massification à un niveau industriel, si vous voulez, de la désinformation et de diffusion massive de contenu complètement insignifiant, non pertinent, généré par IA. Donc là-dessus, j'insiste beaucoup dans mon livre sur la nécessité de développer des algorithmes de recommandation collaboratifs, comme le fait l'association Tournesol, qui développe un algorithme de recommandation qui se fonde sur l'évaluation, le jugement et la décision humaine. C'est-à-dire que vous allez avoir des individus qui vont comparer des vidéos et qui vont en fait, dire quelles sont les vidéos qui, selon eux, sont d'utilité publique. Et à partir de là, l'algorithme va recommander ce type de vidéos qui ont été choisies collectivement par les citoyens. Et il ne va pas recommander, du coup, les vidéos qui ont eu énormément de vues par des bots, donc en fait par personne, vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a vraiment tout un champ de recherche, et j'en parle un peu dans le livre, au niveau des algorithmes de recommandation collaboratifs qui pourraient nous permettre de sélectionner les contenus pertinents sur la toile, sur le web, parce qu'au rythme où les choses évoluent, nous allons bientôt être envahis de contenus absolument insignifiants, non pertinents, générés automatiquement. Et donc la question, ça va plus être le sujet ne va plus être de produire des bons contenus, ça va être de faire le tri parmi les contenus pour sélectionner les contenus pertinents. Et pour cela, nous avons besoin d'algorithmes de recommandation collaboratifs fondés sur les jugements humains, dont Tournesol est un très bon exemple.
Alors Anna Lambert, il y a un rapport de l'Académie des technologies qui a été publié en décembre 2024, qui s'intitule « IA générative et mésinformation », qui montre qu'en fait, comme vous le dites très bien, les algorithmes, le numérique en général, dope la force du faux, c'est-à-dire que le faux est beaucoup plus propagé dans le monde numérique que le vrai, parce qu'il est plus séduisant, il est moins difficile à comprendre souvent, et le vrai est souvent déceptif, il désenchante, et donc il y a sans doute un peu de ménage à faire. Mais vous parlez vous réclamez l'apparition d'un pluralisme algorithmique. Qu'est-ce que c'est qu'un pluralisme algorithmique ?
Alors ça, c'est une proposition que nous avons élaborée dans le cadre du Conseil national du numérique, mais qui a été aussi reprise par les États généraux de l'information ainsi que par le rapport de la commission d'enquête sur TikTok. Et qu'est-ce que ça veut dire un pluralisme algorithmique ? Vous remarquez que sur les réseaux sociaux, les plateformes de contenu en général, vous n'avez qu'un seul algorithme de recommandation. Si vous êtes sur TikTok, c'est l'entreprise TikTok qui vous recommande les contenus. Et si vous êtes sur Facebook, c'est l'entreprise Meta qui vous recommande des contenus, ainsi de suite. Et l'idée du pluralisme algorithmique, c'est de dire que sur ces plateformes, en fait, on devrait avoir une pluralité d'algorithmes qui recommandent des contenus différents. Pourquoi ? Parce que la pluralité des médias est une condition de la démocratie. Donc là, on a des plateformes qui prétendent être horizontales parce que tout le monde a le droit de s'exprimer, sauf que si personne ne recommande les contenus que vous avez publiés, en fait, vous êtes complètement invisibilisé. C'est l'algorithme de recommandation qui choisit ce qui est visible et ce qui est invisible. Et donc, ces plateformes ne sont pas du tout horizontales, elles sont très verticales. Il y a une entité qui choisit ce qui est vu et ce qui n'est pas vu, et donc, elles ne sont pas de simples hébergeurs, elles exercent aussi des fonctions d'éditeurs. Et donc, si elles exercent des fonctions d'éditeurs, elles doivent être soumises à cette logique du pluralisme qui est la condition de possibilité des régimes démocratiques. Dans un régime démocratique, vous n'avez pas un seul journal, ni une seule chaîne de télévision, ni une seule radio. Et donc, il faut pluraliser ces algorithmes afin de pouvoir reprendre la main sur eux et de pouvoir justement sélectionner des contenus, pas forcément vrais ou faux, mais des contenus pertinents, intéressants, signifiants.
Merci Anna Lambert. Vous avez parlé 20 minutes. Je dois donner la parole maintenant à Eric Sadin et ensuite vous débattrez tous les deux. Eric Sadin, donc vous venez avec votre livre Le désert de nous-mêmes, et vous expliquer, vous commencez par nous parler d'une histoire de Rossignol. Qu'est-ce que les Rossignols viennent faire dans les questions relatives à l'IA?
Alors, c'est, je décris une société de Rossignol Philomel pleine de créativité, d'inventivité, de fabrication de sons tout à fait inédits, jusqu'à un beau jour où certains de leurs congénères viennent leur proposer des systèmes qui sont en mesure d'assurer toutes ces nobles tâches. Et évidemment, ici, il est assalé. Et pour finir, assez obèses, dans leur, confinés dans leurs abris et abandonnant toute leur vitalité créative. Cher Étienne, je voulais juste d'entrée vous dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il me semble que c'est tout à votre honneur d'inviter deux philosophes pour parler d'IA générative, d'intelligence artificielle et d'IA générative.
Mais c'est souvent que j'invite des philosophes.
Mais pour quelle raison je vous dis cela? Parce que j'ai relevé depuis un certain nombre d'années que... En général, dans les médias, radio, télévision, journaux, pour tâcher d'y voir un peu clair sur ces enjeux d'une extrême complexité, en général, on invite des entrepreneurs ou des ingénieurs de la tech, donc des personnes qui sont jugées parties, qui sont animées par des intérêts. C'est comme si des figures, pour pas nous parler de la technologie, comme Jacques Ellul ou André Gortz parmi d'autres, ont été effacées de notre horizon pour ne plus entendre parler que des personnes de la tech qui, en général, défendent à la fois une vision du monde et leurs propres intérêts. Je renvoie, pour terminer sur ce point-là, à la commission qu'a mis en place Emmanuel Macron et Elisabeth Borne en septembre 2023 sur les IA génératives, en vue de guider la politique de la République française et d'orienter des investissements. Et il se trouve que sur 7 personnes, sur 13 personnes, sur 15 qui composaient la commission, 13 étaient issus du monde de la tech. Yann Lequin, Meta Facebook, Dominique Barral, Google France, Arthur Mensch, Mistral AI. Et ça n'étonne plus personne, tellement c'est entré dans notre horizon de perception des choses, alors que ça opacifie notre perception, ça crée des filtres d'intérêt. Or, il se trouve, non seulement ça n'étonne plus personne, or il se trouve qu'en langage juridique, ça s'appelle tout simplement du conflit d'intérêts. Et ça n'étonne plus personne, parce qu'on est arrivé dans cet état des psychés où, pour saisir les choses, il devient quasi naturellement d'interroger des personnes qui sont jugées parties. Donc, pour terminer sur cela, je vous dirai, je suppose que c'est la position d'Anne aussi, c'est que je parle, moi,
à partir de conflit d'intérêts à cette table.
Absolument à partir de mon indépendance absolue. Et je pense que ça change radicalement la nature de la parole et la nature des propos.
Alors, votre livre, Éric Sadin, il est très copieux. Vous citez des grands auteurs, notamment Jacques Ellul, vous venez de le rappeler son nom à l'instant, qui écrit ceci: « Le phénomène technique peut se définir comme la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps de rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace. » Or, il y a une autre phrase de Bernanos, « La France contre les robots », 1947.
Absolument.
Où Bernanos écrit ceci: le danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre toujours croissant d'hommes habitués dès l'enfance à ne rien vouloir de plus que ce que les machines peuvent donner. Autrement dit, est-ce que l'IA dope la paresse intellectuelle?
Vous touchez le cœur de l'affaire, là. C'est-à-dire que, pour ma part, j'ai été très surpris, à vrai dire effaré, à partir du 30 novembre 2022, jour du lancement de ChatGPT, de voir des foules de millions d'individus se jeter à pieds joints et pleines d'enthousiasme sur ces systèmes, sans que nul ne se soit soucié des conséquences civilisationnelles qui pouvaient être entraînées, et sans non plus que ces foules, dans la lignée de cela, ne se soient posées la mère de toutes les questions. Ce que je considère être, moi, la mère de toutes les questions, et qui aurait dû être la mère de toutes nos préoccupations, c'est-à-dire celle de nos enfants, qui, d'ici quelques années, vont nous poser cette question: mais pourquoi, maman, pourquoi je me réveille à 7h30 pour aller à l'école, pour apprendre la grammaire, l'orthographe, les grands textes, si des systèmes, sur une simple instruction de ma part, vont assurer ces tâches? Or, voit-on la gravité qui se joue, notamment, il y a quantité de conséquences qu'on va dérouler ensemble, je suppose, mais la conséquence du fait, pour des foules de jeunes personnes à venir, mais aussi déjà des personnes qui se dessaisissent, de la faculté naturelle qui nous constitue en propre, de parler en première personne, dont on doit rappeler que c'est le premier vecteur d'affirmation de notre singularité, de notre subjectivité, de la pluralité humaine et de la possibilité de faire valoir la contradiction et aussi des accords. C'est-à-dire nous exprimer en première personne et utiliser le langage de façon singulière et subjective, c'est la condition même de pouvoir nous entendre et de vivre dans la pluralité humaine.
Mais Eric Zadin, comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que va faire ce qu'on fait ?
Ben déjà, il faudrait apprendre, il me semble, à saisir les conséquences de nos actes qui nous engagent. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait. Et nous avons fait preuve.
Vous voulez dire que c'est une expérience qui se mène quasiment à l'échelle mondiale ?
Absolument.
Une sorte de grand test généralisé, sans qu'on connaisse les effets que ce test va produire.
Ah non, 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 non. Nous aurions pu les pressentir. C'est-à-dire que nous avons, à mon sens, fait preuve d'une faillite morale collective, de sauter à pieds joints sur ces systèmes sans nous être posé toutes les questions que nous aurions dû nous poser. Et cette faillite morale collective, nous allons la payer très cher. Parce que tout était sous nos yeux, déjà. Je vous donne des exemples de ce qui, 3 ans plus tard, il est arrivé ce moment, enfin, il était temps, ou 3 ans plus tard, comment nous commençons à être confrontés aux premières grandes conséquences. Et ce n'est que le début. Par exemple, il n'y a pas un jour sans que des professeurs ne nous fassent le témoignage du fait qu'ils ne comprennent même plus le sens de leur mission. Et des étudiants ou des élèves qui disent utiliser ces systèmes pour faire leurs devoirs, alors qu'on sait que l'écriture participe de la formation de la pensée et du jugement critique. Nous vient aujourd'hui de la Silicon Valley le concept de Jobs Apocalypse. Ça y est, il est arrivé ce moment où 3 ans plus tard, on se rend compte des conséquences sur le monde du travail qui induit, à l'image de ce qu'a fait Amazon il y a quelques semaines, des milliers de licenciements, mais qui induit aussi un phénomène bien plus insidieux dont on va se rendre compte au cours des mois à venir et des années à venir, c'est-à-dire des moindres embauches et qui va créer d'énormes difficultés pour des légions de jeunes et donc des conséquences sociales qu'on ne mesure pas et que nous aurions pu déjà mesurer. Et enfin, aujourd'hui est de plus en plus documenté le fait que, par exemple, parmi tant d'autres exemples dans le champ de la culture, que les morceaux postés sur Spotify quotidiennement, 30% d'entre eux sont des morceaux synthétiques, mettant en danger toute l'industrie musicale et les compositeurs. Et enfin, pour terminer sur les premières grandes conséquences, sont de plus en plus documentés des phénomènes de dépendance émotionnelle, affective, vécus particulièrement par des adolescents, et qui, dans des cas extrêmes, ont conduit à des suicides. La liste, d'ores et déjà, pourrait être égrenée sur de longues lignes. On pressent que ce ne sont que les prémices. Or, je fais souvent la comparaison avec le rapport Meadows, qui en 1972 était sous nos yeux. Ça avait été documenté, la pollution atmosphérique, moins le réchauffement climatique, mais la dévastation, en tous les cas, de la planète.
Des ressources.
L'épuisement des ressources. Et qu'est-ce qui c'était, nous étions à quel moment, c'est-à-dire à la fin des 30 glorieuses, mais à l'essor, à la grande éclosion de la société de consommation. Personne n'a voulu voir ça et se soucier des conséquences. Et 40 ans plus tard, on s'est réveillé, on s'est dit, oh, c'est terrible, la planète est en feu. Il me semble que là, nous avons tous les éléments sous les yeux et je ne vois si peu des mesures de mobilisation à la mesure de ce qui est à l'œuvre et de ce qui vient.
Mais c'est ça que vous voulez dire, Eric Zadin, quand vous écrivez que la société a souvent un train de retard sur elle-même ?
Ben, je vous donne un exemple, Étienne Klein. Et particulièrement en matière de numérique. Regardez ce qu'a organisé le président Macron il y a un mois, une conférence sur les réseaux sociaux qui s'inquiétait des risques d'effritement démocratique du fait de leur usage compulsif. Mais la généralisation des réseaux sociaux date du tournant des années 2010, c'est-à-dire 15 ans. Et il y avait déjà de très nombreux signes alarmants. Et je renvoie à Samuel Paty, il y a 5 ans.
Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ? Pour légiférer, pour peut-être même installer une forme de censure ?
Alors, je crois que, je théorise ça dans mon livre, je crois que nous vivons dans une grande illusion de la possibilité de réguler, en tout cas de faire confiance aux législateurs pour mettre un frein à certains processus en cours. Ce n'est en aucune manière ce qui est le cas pour plusieurs raisons. D'abord, le législateur en général a les yeux pleins d'étoiles pour les dites innovations numériques. Ensuite, le législateur dans les pays du monde entier sont soumis à des procédés très puissants de lobbying. Et ensuite, ce sont souvent des technocrates qui leur préparent leur dossier. Donc, si on attend du législateur d'avoir une conscience, on peut attendre très très longtemps. Moi, ce que je crois, c'est que, en très peu de temps, nous allons nous défaire non seulement de l'usage de nos facultés les plus fondamentales, mais d'une certaine vision du monde. Je m'explique en quelques mots. Nous savons que ces systèmes sont des machines à produire du texte, on va dire du texte. Moi, je dirais aussitôt du pseudo-langage. Et je dis que c'est un langage de la mort, nécrosé,
tanatique. Vous dites l'ayant été à force de loi.
Absolument. C'est-à-dire, tout à l'heure, Anne Alombert disait il est important de saisir comment ces systèmes fonctionnent. Et c'est très, en effet, c'est très important. C'est un effort que j'ai voulu faire, que je me suis attelé de faire, dès décembre 2022, relativement à ces systèmes, les LLM, les grands modèles de langage, dont on n'a pas voulu voir de quoi ils étaient constitués, et nous aurions dû le faire. Je m'explique en quelques mots pour quelles raisons. C'est que ces systèmes, ils sont conçus, en tout cas une partie d'entre eux, ils sont conçus pour aller moissonner la totalité des corpus numérisés existants depuis la nuit des temps, bibliothèques, bases de données Internet, articles, en vue de les soumettre par d'autres systèmes qui prennent le relais, à des équations statistiques et mathématiques qui ne visent qu'un seul principe, c'est celui de la récurrence. C'est-à-dire, s'il y a le terme voiture, le terme volant ne sera jamais très loin en termes de récurrence, de statistiques
cataloguées. C'est même pas des mots, c'est des
tokens. C'est des tokens. Mais ils sont divisés. Et le terme route ne sera jamais très loin. Et cela suppose que c'est fondé sur le principe de la corrélation. C'est très important de comprendre cela. C'est-à-dire que s'il y a A, il y aura B en termes de corrélation. Corrélation voulant dire au vu des statistiques cataloguées. Mmh. Et s'il y a A, il y a B, de connaître l'occurrence C, c'est un peu plus compliqué. Donc ça sera d'un point de vue probabiliste, celle qui a le plus de chances d'apparaître au vu des statistiques cataloguées. C'est-à-dire que ces systèmes sont fondés sur le principe cardinal de la corrélation probabiliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que a lieu et produit, mais nous on est incapable de le voir, c'est masqué à notre conscience, ce qui a déjà eu lieu. Et cela est à l'opposé absolu de la façon dont nous, depuis la nuit des temps, nous jouons avec le langage. C'est-à-dire que le langage, il n'est pas fondé sur le principe de la corrélation, il est fondé sur le principe de l'association. C'est-à-dire que nos idées, nous faisons chacun d'entre nous des associations d'idées que nous sommes chacun, que nous opérons de façon absolument unique, absolument singulière. Personne sur la planète ne fait des mêmes, sur une minute ou même sur une journée, de mêmes associations d'idées que chacun d'entre nous. Et les associations d'idées dont dépendent notre élocution. Donc notre élocution est fondée sur une inventivité associative ininterrompue, mais j'irai encore plus loin. Et c'est cela qu'il faut saisir, la vitalité dans notre rapport au langage. C'est que ce que je vais dire là, à l'instant, dans 2, 3, 4, 5 secondes, je ne sais pas ce que je vais dire. Et pourquoi je ne sais pas ce que je vais dire?
Ce n'est pas la fin de votre phrase.
Mais je ne sais pas. Et ce que je vais dire, et pour quelle raison? C'est parce que nous n'entretenons pas un rapport au langage de façon probabiliste, mais indéterministe. Elle est là, la liberté humaine, elle est là, la singularité humaine, l'inventivité humaine dans notre rapport au langage. Et donc, nous allons nous défaire de cette puissance inventive, de cet élan vital qui est, pour reprendre le terme de Bergson, qui est à l'œuvre dans le langage, dans notre rapport au langage, pour laisser des machines qui produisent un pseudo-langage mathématisé issu d'un capitalisme linguistique, c'est-à-dire d'entreprises qui produisent ces systèmes en vue de générer des abonnements et générer des profits, parce que nous, on est dans un rapport de naturalisation, c'est-à-dire ça entre dans l'ordre des choses. Non, non, c'est une production industrielle. Et donc, nous allons nous défaire de cette puissance vitale qui conditionne la possibilité d'être ensemble et qui conditionne la pluralité, je l'ai dit, et la liberté humaine dans l'affirmation de points de vue toujours singuliers et ininterrompus.
Mais alors, Éric Sadin, que fait, à votre avis, à notre façon de comprendre et d'apprendre, le fait que dès qu'on se pose une question, on peut interroger ChatGPT ou Google pour avoir la réponse? Le fait que la question puisse être répondue sans qu'elle soit vraiment mûrie, réfléchie, on a tout de suite la réponse.
On a tout de suite la réponse.
Est-ce que ça change notre rapport à la connaissance?
Mais bien sûr.
Et comme vous êtes philosophe, et comme vous l'avez signalé, je reçois aujourd'hui deux philosophes, ce qui est une sorte de record. Je peux pas m'empêcher de citer Hegel pour vous impressionner. Hegel dit cette chose quand même incroyable pour son époque. Il dit, si l'apprentissage se bornait à une simple réception, le résultat n'en serait guère meilleur que si nous écrivions des phrases sur l'eau. Car ce n'est pas la réception, mais l'auto-activité par laquelle on se saisit d'une connaissance qui en fait notre propriété.
Et bien sûr, c'est le processus. Le processus, l'effort, la compréhension de phénomènes dans l'apprentissage, l'indétermination, la recherche d'hypothèses. Et vous savez que dans le monde du travail, vous savez que ce qui accompagne le monde du travail, c'est depuis une vingtaine d'années, c'est il y a beaucoup de novlangues managériales. Alors vous savez, relativement aux IA génératives, depuis une dizaine d'années, il y a cette formule de complémentarité homme-machine, ou de mettre l'homme au centre. Donc c'est des vœux pieux, parce que c'est absolument pas ce qui est à l'œuvre dans le monde du travail avec l'intelligence artificielle, c'est plutôt de l'encadrement des conduites. Et puis depuis peu de temps, depuis l'apparition des IA génératives, est apparue une formule extrêmement spécieuse, extrêmement perverse, je trouve. C'est-à-dire, on dit, maintenant, les humains dans l'exercice du travail vont pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, comme si le travail devait se modéliser, vous savez, sur l'idéalité des systèmes informatiques, hein, ne faire que l'essentiel, ne faire que la tâche absolument finalisée, sans, mais... en oubliant tous les processus qui sont à l'œuvre dans le travail.
Je vais me faire l'avocat du diable. Mais quand on a inventé la photographie, ça a été une concurrence pour les artistes peintres qui peignaient des portraits ou des paysages. Et pour échapper à cette concurrence technique, ils ont inventé l'abstraction. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait un essor de l'esprit humain dans les tâches qu'il est seul à pouvoir accomplir, et les machines vont faire les basses œuvres?
Oui, enfin...
Je me fais l'avocat du diable,
pense. Concernant les IA génératives, ça charrie de très nombreux enjeux que nous ne pourrons pas balayer aujourd'hui. Il y a nos livres qui sont là pour ça, et puis d'autres. Mais la question du travail est capitale. Et je me souviens, cher Étienne, qu'il y a 3 ans, des gens que je ne citerai pas, me disaient, mais regarde des études. Il y a des études qui montrent, qui prouveraient presque, hein, ils y allaient jusque-là, que les choses vont être... ce n'est pas du tout certain que ça génère des bouleversements dans le monde du travail. Mais les études, déjà, il fallait voir qui les produit. Hein, la question de Nietzsche qui parle, hein, à partir de quel intérêt, à partir de quelle vision du monde. En général, c'est des groupes d'assurance, des groupes bancaires, donc qui procèdent d'une vision du monde très très orientée, c'est-à-dire la croissance dépend de la technologisation du travail. Or, ce qu'on n'a pas vu, c'est que ce qu'induisent les IA génératives, que moi je nomme le tournant intellectuel et créatif de la technologie. C'est-à-dire que pour bien comprendre ce que ça veut dire, je pense que je n'ai pas trouvé de meilleure façon que d'utiliser une formule littérale. C'est-à-dire qu'il est dorénavant dévolu à des systèmes d'assurer des tâches qui, jusque-là, mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives. Donc on voit bien la rupture qui est à l'œuvre, c'est-à-dire la moindre mobilisation de ce qui nous constitue en propre. Et relativement au monde du travail, le fait que nous n'ayons pas vu venir les choses, et nous allons voir des puissants phénomènes de mise au chômage et de moindres embauches dans les années à venir. Pour quelles raisons? C'est parce que nous continuons à penser les choses à l'intérieur du dogme de Joseph Schumpeter, qui a théorisé à la fin des années 30 le concept très lumineux. Il a vu quelque chose de destruction créatrice, c'est-à-dire qu'il a théorisé le fait que certains développements technologiques entraînaient des destructions d'emplois, pour voir soit des retraites anticipées ou soit de la mise au chômage, mais ce « mais » est très important, c'est ça qu'il a vu, mais qu'il s'opérait mécaniquement ou de façon organique, des reversements vers des emplois nouvellement créés. Et c'est exactement ce qui s'est passé au cours des décennies, et particulièrement au tournant des années 80. Vous savez qu'il y avait eu une robotisation massive de l'industrie automobile et des manufactures. Et c'est ce qui s'est passé aussi dès les 50 dernières années, jusqu'au 30 novembre 2022, l'apparition de ChatGPT, où notre cher ami Joseph Schumpeter est mort une deuxième fois. Parce que, à quoi avons-nous affaire aujourd'hui? C'est que entre 70 et 80% des métiers dans la quasi-totalité des pays sont des métiers de service. Et qu'est-ce qui caractérise les métiers de service? C'est que la plupart des emplois qui le composent sont des emplois qui mobilisent nos facultés intellectuelle et créative. D'où l'importance des concepts pour identifier les choses et de savoir à quoi nous avons affaire. Or, voilà que sont dorénavant élaborés des systèmes qui vont pouvoir assurer ces tâches à des vitesses infiniment supérieures à nos capacités cognitives, de façon prétendument plus fiable, j'insiste toujours sur le prétendument, et à moindre coût. Comment ne pas voir l'ouragan qui vient? Et il n'y aura pas, pour terminer sur cela, de reversement vers un secteur quaternaire, pour la simple raison qu'il n'existe pas. Est-ce que nous sommes mobilisés? Est-ce que nous avons conscience de ce qui vient? Il me semble qu'en aucune manière.
Éric Zadin, vous avez épuisé vos temps de parole.
Donc je m'exécute.
Non. Maintenant, le débat commence entre vous-même et Anna Lombert. La question qui va déterminer la structure de ce débat, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Que convient-il de proposer pour répondre à quelques des très fortes objections que vous avez évoquées l'une et l'autre? Anna Lombert, est-ce que vous voulez réagir à ce qu'a dit Éric Zadin?
Oui, je peux essayer de réagir sur cette question de la disparition progressive des emplois, qui est une question très fondamentale à mon avis, qui avait déjà été abordée en 2015, notamment par Bernard Stiegler dans un livre qui s'appelle « La société automatique », où il anticipait en fait cette question de l'automatisation des savoir-pensés. C'est-à-dire le fait que, et par savoir-pensés, il entend évidemment les savoirs décidés qui sont extériorisés dans les algorithmes de recommandation, par exemple. Là, les savoirs exprimés qui sont extériorisés dans les algorithmes de génération, etc. etc. L'une des pistes qui était ouverte par Bernard Stiegler à ce sujet, c'était celle de l'économie contributive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous continuons à développer ce type d'automate computationnel de manière massive et rapide, à des fins uniquement orientées vers l'augmentation de la productivité, la recherche du profit, effectivement, nous risquons d'éliminer de plus en plus d'emplois et d'arriver à une situation d'insolvabilité économique. Parce que si les personnes n'ont plus d'emploi, si elles n'ont plus de salaire, elles ne peuvent plus consommer non plus. Donc en fait, c'est tout le modèle consumériste qui rentre en crise, le modèle du capitalisme consumériste numérique. Et la proposition de Bernard Stiegler consistait à dire que dans ces cas-là, et c'était aussi la proposition de André Gortz en son temps, André Gortz qui avait anticipé ces évolutions dans les années 80 déjà, et 90, et notamment dans un livre qui s'appelle « Misère du présent, richesse du possible », et qui disait donc que, eh bien, à ce moment-là, il faut redistribuer le temps d'emploi de manière équitable dans la population pour que chacun ait un emploi, même s'il n'a pas un emploi durant tout son temps d'existence. Vous voyez, des temps d'emploi réduits pour chacun. Et à côté, rémunérer des activités qui sont des activités contributives, c'est-à-dire des activités qui produisent de la valeur culturelle, de la valeur sociale, de la valeur écologique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut évidemment imaginer que on retrouve une forme d'équilibre économique, si je puis dire, et surtout qu'on valorise les savoirs, en fait.
Est-ce qu'on peut imposer, Anna Lombert, cette solution à l'échelle mondiale?
Si on
l'impose localement, est-ce que ça va empêcher les Chinois de continuer cette robotisation forcenée qu'ils accomplissent aujourd'hui?
C'est clair que ça va pas empêcher ni les Chinois ni les Américains de faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il n'y a pas de solution, je pense, à échelle mondiale. Je pense que c'est un petit peu illusoire de vouloir tout de suite penser à l'échelle mondiale. L'idée, c'est aussi d'expérimenter des modèles économiques alternatifs au niveau local, parce qu'on ne peut pas tout changer d'un coup à l'échelle mondiale. Donc c'est, disons, un travail progressif. Et juste un mot sur cette question au sujet de l'intelligence artificielle générative dans le champ de la culture plus spécifiquement. Vous savez qu'aujourd'hui, ces grands modèles de langage ou ces générateurs automatiques d'images, de vidéos, de sons, de plus en plus, ils utilisent dans leur jeu de données des contenus qui ont déjà été automatiquement générés. Et que cela conduit à un effondrement des modèles, selon un article qui a été publié dans la revue Nature, la revue scientifique, en 2024, et qui montrait que les contenus générés sur la base de contenus déjà automatiquement produits sont de moins en moins bons, de plus en plus insignifiants, non pertinents. Donc en fait, on va avoir besoin de contenus humains, si je puis dire, ou de contenus de qualité, en tout cas, qui soient valorisés pour que ces dispositifs puissent fonctionner. Vous voyez, donc c'est un système complètement anthropique. Donc si on n'imagine pas des mécanismes de redistribution...
Anthropique avec EN.
Oui, anthropique avec UN, je ne vais pas me lancer dans le débat avec vous, mais disons, en tout cas, je dis anthropique au sens d'un système qui détruit ses propres conditions de possibilité. Peut-être c'est pas le bon mot, on en parlera ensuite, mais en tout cas, c'est un système qui s'autodétruit, voilà ce que je veux dire. Et donc, la question, c'est que qui va les produire, ces contenus de qualité? Qui va les sélectionner? Et là, on a besoin de redistribuer la richesse vers des personnes qui produisent ces contenus de qualité et aussi vers les infrastructures numériques qui permettent de les produire. Par exemple, Wikipédia a permis de produire toutes sortes de savoirs certifiés, même si Wikipédia est très critiquable sur beaucoup de points, mais a permis une nouvelle manière de co-construire les savoirs ensemble. C'est une plateforme contributive et il y en a beaucoup d'autres. Donc comment faire pour encourager ces technologies contributives qui permettent de produire de la culture, des savoirs collectivement, et plutôt que ces IA extractives, en fait, qui vont nous déposséder de tous nos savoirs et aussi de nos ressources naturelles, matérielles.
Éric Sadin, je perçois que vous voulez réagir.
Je ne partage absolument pas ce point de vue d'Anne, hein, ni ce point de vue stiglerien. Vous souvenez qu'en février dernier, Emmanuel Macron et la France avaient organisé un sommet mondial de l'IA.
C'est-à-dire... Et vous avez fait un contre-sommet.
Alors, je vais vous expliquer en quelques mots. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes cérémonies. Au Grand Palais, hein, lieu d'exposition universelle, des grands moyens ont été mis, hein, par la République française, étaient invités une centaine de chefs d'État qui ont rivalisé d'annonces d'investissement, notamment dans les serveurs qui vont encore plus, davantage brûler la planète, hein, et puis étaient invités tous les grands pontes américains, étrangers de la tech qui, au futur, toujours en nous parlant au futur, nous chantaient des merveilleux lendemain à venir, et c'est jamais engageant des discours au futur. Alors moi, français, parisien, je me suis dit c'est pas possible de rester les bras croisés. Et avec des amis du SNJ, le Syndicat National du Journalisme, et Éric Barbier, référent IA générative auprès du SNJ, on a soulevé des montagnes avec 0 euro, contrairement à Emmanuel Macron et son équipe. Et on a organisé, à 300 mètres de là, au Théâtre de la Concorde, un contre-sommet de l'IA. Et c'était extraordinaire.
Vous le racontez dans votre livre.
Absolument, parce que très loin des discours énoncés au futur, étaient invités des personnes issues de différents secteurs de la société à témoigner sur les effets concrets sur les pratiques dans l'administration publique, l'automatisation sans cesse croissante des services publics, dans le secteur du travail, dans le monde du journalisme. Éric Barbier et d'autres nous ont raconté comment aujourd'hui le secrétariat de rédaction est de plus en plus assuré par des systèmes. Et dans le monde de la culture, c'est un ouragan terrible qui est appelé à s'abattre. Alors, je vous donne un exemple. On a parlé de Spotify tout à l'heure, ce qui me semble être un grand marqueur de l'époque. Peut-être avez-vous entendu parler de ces mini-séries chinoises qui sont élaborées depuis quelques temps maintenant, dont les scénarios, les acteurs, on n'ose même plus les appeler comme ça, des figures, des personnages, les décors, les costumes, les lumières, sauf le montage, on se demande pour quelles raisons et jusqu'à quand, sont générés par des systèmes. Là, pour moi, il y a un puissant signe de l'époque, c'est-à-dire que nous allons vers un art sans signataire, délivré de ses corps, désincarné.
Vous voulez dire la disparition du droit d'auteur ?
Non, pas du tout. Je veux dire la disparition des métiers de la culture, mais plus encore, des savoir-faire. La liste est longue de métiers qui sont déjà mis en péril. Comédien-doubleur, traducteur littéraire, photographe, graphiste, architecte, designer, costumier. Vous avez peut-être entendu parler de la production que voulait faire France Télévisions de films d'animation avec des IA génératives. Et il y a eu une mobilisation. Je crois que l'heure, pour ma part, elle est à la mobilisation dans tous les secteurs de la société où on se rend compte que ce sont des métiers, mais au-delà, c'est une vision du monde qui est remise en cause. C'est-à-dire, les arts et la culture, c'est l'altérité, en réalité. C'est le monde de l'altérité dans ce que l'autre a de plus grand à nous offrir dans sa subjectivité, dans sa richesse, parfois dans son génie, et qui fait que la collectivité est curieuse et attentive à ce qui est produit. Et pour terminer, il se trouve que le 2 décembre, j'ai été invité à donner une conférence magistrale à l'UNESCO, et j'ai lancé ce que j'appelle un appel de Paris, un appel mondial, à ce que...
Vous voulez dire il y a quelques jours.
Il y a quelques jours, le 2 décembre, un appel mondial, à ce qu'il y ait une mobilisation dans tous les métiers de la culture, auprès des producteurs, concernant les producteurs, concernant les artistes, concernant aussi le public, ne concernant pas les politiques, puisqu'ils ne saisissent pas l'incidence, l'ouragan qui va s'abattre sur les métiers de la culture. Et ça a appelé à toute une série de préconisations. Par exemple, que Spotify, les plateformes, vérifient l'origine, s'engagent à vérifier l'origine des morceaux postés, que les labels s'engagent à ce que les morceaux ne soient pas générés, pas signés aux artistes, et le fait qu'ils s'engagent, qu'ils certifient qu'il n'est pas utilisé ces systèmes, de la même façon pour les éditeurs. des éditeurs littéraires ou de sciences humaines. Dans les contrats, j'en ai signé des contrats, il devrait, il me semble, être stipulé que les textes qui sont rendus n'ont pas été utilisés des systèmes génératifs. Ça, il y va de la survie de ces métiers, il y va de la survie d'une certaine vision du monde, faute de quoi nous allons, oui, vers l'automatisation quasi intégrale des affaires du monde, et nous allons être réduits à la fois à des coquilles vides, c'est-à-dire ne mobilisant plus nos facultés les plus fondamentales, et à des masses d'inutiles. Et pour terminer, est-ce qu'on pense aux étudiants en école d'art, de photographie, de cinéma, qui dans 3-4 ans vont être mis sur le carreau? Est-ce qu'on le voit venir, cela? Est-ce que c'est ce monde que nous voulons? C'est par la mobilisation et par l'action que nous pouvons contredire ce puissant mouvement, il me semble.
Alain Lombert, vous avez un droit de réponse.
Oui, écoutez, non, je crois que ce propos ne m'était pas spécifiquement adressé. C'est un propos je ne suis pas du tout en désaccord avec ça. Je pense que la mobilisation est essentielle. En revanche, je voulais dire peut-être ajouter deux choses. La première, c'est que il n'y a pas que le champ de la culture et des arts qui est menacé, bien évidemment. Et donc, il faut aussi, il y a aussi des enjeux dans le champ de la médecine, dans le champ de la justice, etc. Et donc là, je pense qu'il y a aussi une réflexion de fond qui s'impose sur ce que l'on peut automatiser et ce qu'on ne peut pas automatiser. Et notamment, si on peut se servir de l'IA et de l'IA générative peut-être pour toutes sortes de choses, peut-être pour aller rechercher de l'information, etc., pour nous donner on peut faire des recherches beaucoup plus précises avec certains dispositifs d'IA, ça peut être très utile. En revanche, tout ce qui relève de l'interprétation et de la décision humaine ne peut pas être automatisé, parce que quand vous interprétez ou quand vous décider, vous êtes toujours face à un cas singulier dans une situation inédite, même si évidemment il y a des ressemblances avec le passé, etc. Et donc je crois que ça, il faut être bien clair là-dessus, de ne pas automatiser en fait les décisions et de ne pas renoncer à l'apprentissage et à la transmission des savoirs fondamentaux. Parce que en fait, si vous voulez être un bon juge ou un bon médecin, il faut avoir intériorisé tout le savoir ou les savoirs passés. Vous voyez, il ne faut pas se dire qu'on va pouvoir arriver et puis faire confiance aux prédictions algorithmiques pour pouvoir poser une décision. Donc je crois que là, il y a des limites dans différents champs professionnels à mettre très clairement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut enseigner comme on l'a toujours fait?
Alors, enseigner comme on a toujours... ça dépend dans quel domaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut en tout cas développer ces systèmes en accord avec les professionnels qui exercent ces professions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur imposer des systèmes qui viennent de je ne sais quelle start-up.
Non, mais par exemple, vous êtes professeur, vous enseignez devant un amphi de 800 étudiants.
Oui.
Vous leur apprenez à bien se servir de l'IA?
Non, ou non.
Vous leur apprenez à se passer de l'IA?
Non, moi je leur apprends la philosophie. Donc je ne me focalise pas forcément sur l'IA dans mes enseignements. Et je pense qu'il ne faut pas tout focaliser sur l'IA. En revanche, ça pose des questions très spécifiques dans le champ des savoirs, du savoir philosophique aussi, dans le champ de l'apprentissage des langues, etc. Et il ne faut pas apporter des réponses générales pour tous ces champs. Il faut néanmoins que les personnes qui pratiquent ces savoirs aient un mot à dire sur la manière dont ces dispositifs sont intégrés dans telle ou telle pratique. Et encore une fois, dans le champ de la culture, de l'art, etc., le revenu contributif peut être un moyen très important pour valoriser des pratiques qui sont des pratiques originales et qui ne sont pas valorisées, disons, par les grandes industries qui n'ont pas attendu l'IA pour s'exercer.
Éric Cézanne, à vous le dernier mot.
Alors, vous saviez, vous disiez, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un immense problème qu'on n'a pas évoqué, cher Étienne, qui va nous prendre de court. Là encore, que nous aurions pu voir, il me semble, il y a 3 ans, c'est la question de l'image, la question de la représentation. On sait que ces systèmes ne sont pas seulement des systèmes à produire du texte ou du pseudo-langage. Il est mis dorénavant entre les mains de milliards d'individus, des systèmes qui, en temps réel, produisent des pseudo-images qui correspondent aux moindres souhaits, aux moindres lubies des individus. Et vous vous souvenez qu'il y a 2-3 ans, on pouvait encore identifier les images synthétiques. Il y avait des choses assez grossières. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué. Dans 2 ans, c'est terminé. Ouais. Et nous entrons dans ce que j'appelle l'ère de l'indistinction généralisée. Et ça, c'est d'une extrême gravité, parce que nous ne saurons plus ni quelle est l'origine, ni la nature d'une image. Et ça, c'est d'une extrême gravité, parce que la société, c'est pas seulement des principes communs, c'est des référents communs. Faute de quoi nous ne nous comprenons plus. Donc là, il y a une question qui devrait nous mobiliser.
À ce propos.
Et qui va nous prendre de court, et qui va encore bien davantage brutaliser la société et les rapports entre les personnes qui vont ne faire valoir que leur propre vérité.
À ce propos, Éric Cézanne, connaissez-vous l'anagramme de l'IA change le topo du réel?
C'est compliqué.
Ça donne la peur de la technologie. Ce qui a été trouvé par Olivier Garcia. Merci à tous les deux d'être venus. Le débat est ouvert. Je ne pense pas qu'on l'ait complètement abordé. On y reviendra sans doute dans d'autres émissions.
Merci.
Je recommande la lecture de vos livres, donc De la bêtise artificielle par Anna Lombert et puis Le désert de nous-mêmes par Éric Sadin. C'était la conversation scientifique avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la réalisation et la mise en onde sous Ad Boukhorsa.